Vous êtes toujours sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume et j'ai le plaisir de recevoir notre amie Mariette. Bonjour Mariette.
Bonjour Guillaume.
On est parti pour une nouvelle sélection de DVD pour les fêtes de Noël.
Oui, on était parti pour une sélection DVD pour les fêtes et en fait, on a bifurqué sur quelque chose d'autre.
On est parti sur une thématique finalement. Voilà, on a décidé de se centrer sur une filmographie d'acteurs, une fois n'est pas coutume. Puisque ouais. Tu es fan, n'est-ce pas, on peut le dire, de...
Oui, j'aime bien Jake Gyllenhaal. Et ce qui s'est passé, donc, on était partis sur, toujours à l'affiche, avec Nocturnal Animals, qui est toujours sur les écrans torontois.
Voilà, il vient de sortir, c'est un film de Tom Ford, tiré d'un roman Tony and Susan, d'Austin Wright. Et on a vu ce film pour vous, c'est un film assez dérangeant, assez intéressant. Est-ce que tu veux... pitcher ce film en quelques mots pour les auditeurs?
Oui, rapidement. Donc, il caste Amy Adams, Jake Gyllenhaal et puis d'autres acteurs comme Michael Shannon et Aaron Taylor Johnson, qui est réalisé par Tom Ford. Donc, Susan est une galeriste, je dirais, qui réussit à Los Angeles.
Ouais.
Et qui mène une vie personnelle assez morne. Ça se voit dès les premières images. Il y a un ennui et une sorte de froideur qui ressort de ça. Et qui reçoit un soir... où son mari est absent, le manuscrit de son ex-mari,
c'est ça.
Edouard.
Et joué donc par le beau Jake.
Voilà, et elle commence à lire le livre qui la retourne émotionnellement et psychologiquement, ça se voit. Et là, le film entre dans une double dimension. On a la vie réelle, je dirais, avec Amy Adams et puis son mari, donc interprété par, comment il s'appelle
J'ai oublié le nom de cet acteur, mais qu'on voit moins.
Armie Hammer,
voilà.
Et il et puis son réseau de galeristes riches.
Oui, voilà. Donc on évolue dans des hautes sphères ultra modernes, ultra froides,
et aseptisées surtout.
Très aseptisées.
Très choquant. Et à côté de ça, on a l'histoire du roman qui se passe dans un Texas. Organique et brut,
ouais.
Avec des personnages dont la psychologie est absolument folle,
ouais, ouais.
Et qui se manifestent dans leurs actions et dans leur visage et leurs expressions. Donc on est sur un univers comment codifié face à quelque chose d'absolument rustique.
Donc oui, toute l'action, toute la violence émane de cet aspect fictionnel, donc du livre Nocturnal Animals, qui est écrit donc par le personnage joué par Jake Gyllenhaal. Et effectivement, on a tendance à se perdre. Moi, j'ai trouvé un petit peu entre la réalité et la fiction de ce livre. Par moment, on perd un petit peu pied. Ce roman, donc, d'une très grande violence, bouleverse le personnage d'Amy Adams et nous bouleverse aussi un petit peu.
Oui, parce qu'on a du mal à recoller les morceaux, étant donné quand même il a été écrit par Edouard dans le but de se venger du personnage d'Amy Adams, Suzanne. Ce qui fait que les personnages du livre et de la vie réelle se confondent. Et le réalisateur Tom Ford a joué là-dessus, au point de mettre Jake Gyllenhaal dans les deux rôles, celui de Tony qui est fictif et celui d'Edouard qui est réel. Et celui de Suzanne, qui ne s'appelle pas Suzanne, mais qui est jouée par Isla Fisher, qui est une actrice qui lui ressemble énormément.
Oui, comme
au point qu'en fait, on les confond complètement. Il a fallu le générique pour me rendre compte que ce n'était pas Amy Adams dans cette partie-là du film.
Mais,
donc on a beaucoup de mal à s'y retrouver.
Deux belles rousses,
oui,
qui se ressemblent comme
mais
deux
vraiment,
gouttes d'eau.
Quand on ne fait pas très attention, on dit « Oh tiens, elle a l'air un peu différente là, dans cette partie-là du film. » En fait, ce n'est pas elle.
Voilà, alors donc après avoir vu Nocturnal Animals, un film qu'on vous recommande tout de même chaudement parce qu'on ne s'ennuie pas, c'est assez assez prenant,
c'est
assez puissant.
C'est un film qui tient à ses acteurs, sans ça.
C'est vrai.
C'est quand même assez léger, mais par contre ça vaut le détour effectivement pour l'ambiance et le jeu d'acteurs et puis cette avalanche d'émotions.
Oui, moi je trouve la mise en scène et la photographie plutôt intéressante aussi. Donc du coup on a décidé de partir un petit peu sur la filmographie de Jake Gyllenhaal qui a fait beaucoup de films finalement un petit peu dérangeants comme ça,
ouais,
je dirais.
Et c'est là qu'on s'est rendu compte en fait qu'il était absolument déprimant et déprimé. On a cherché des comédies, des rôles un peu drôles. On lui en a trouvé un.
Alors voilà,
et
quand
encore...
même. On a une comédie un peu plus légère. Si vous voulez faire des cadeaux légers pour les fêtes, Mariette, c'est...
Love et autres drogues,
Love
qui est sorti en 2010,
ouais.
Fin 2010, qui raconte une histoire un peu... Donc c'était un peu l'époque où les comédies romantiques entraient dans le sexe casual.
Ouais.
Et donc, en fait, il rencontre Anne Hathaway, qui est atteinte de Parkinson. Donc, déjà, c'est une comédie romantique, mais qui est pas si drôle parce que l'héroïne est comme une condition médicale pas marrante du tout.
Une thématique plutôt difficile.
Et donc, elle veut pas être dans une relation amoureuse du tout à cause de ça. Elle veut rester indépendante. Et donc, elle rencontre Jake Gyllenhaal, qui est un personnage pas très sympathique. Et puis, pour qui ça fait l'affaire. Et puis, en réalité, il tombe amoureux parce que c'est une bonne comédie romantique quand même.
Quand même. Donc, on a la satisfaction du happy end quand même.
Je te le dirai pas, Guillaume, il faut que tu regardes le film.
D'accord, donc voilà en tout cas hein, une première sélection dans la catégorie légère de la filmo de Jake Gyllenhaal.
Voilà, il y a un film.
Un film que l'on a sélectionné. Pour le reste, on a beaucoup de films qui ont vraiment un grand intérêt parce que moi je trouve que c'est un acteur qui choisit bien. Alors je ne sais pas si on le choisit ou si lui choisit ses films et ses metteurs en scène, mais c'est vrai que au niveau des scénarios, il y a un florilège de films tout à fait remarquable, de films qui donnent à réfléchir notamment, et parfois de films que l'on ne comprend pas totalement à la première vision, n'est-ce pas?
Oui, alors on va citer dans celui-là bien sûr le très cultissime maintenant Donnie Darko, qui était un de ses premiers grands rôles.
Exactement, il était tout jeune dans Donnie Darko, je crois que le film date de 2000 ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça, il avait 20 ans.
2001, voilà, il avait juste 20 ans, et j'ai revu le film pour vous ce week-end, il est assez aussi ébouriffant, c'est un personnage complexe, habité, un jeune garçon qui est suivi par une psychologue et qui semble, à première vue, souffrir vraiment de gros problèmes psychologiques, il est schizophrène, il a des visions, et puis malgré tout, sa vie se passe, disons, c'est un collégien, voilà, il évolue dans un lycée avec tout ce que cela comporte. Donc une histoire B amoureuse, et puis beaucoup de problèmes, mais surtout il y a un compte à rebours qui est lancé par son ami imaginaire en quelque sorte, qui est apparu en vision, une sorte de lapin maléfique là, hein, qui fait plutôt peur. Donc le film est d'ailleurs parfois catégorisé un peu dans une sorte de catégorie d'horreur. C'est une horreur plutôt psychologique que véritablement visuelle pour moi, mais c'est surtout un film qui c'est un film à twist, comme on dit, c'est un film qui retourne l'esprit, c'est un film qui surprend, et j'ai remarqué que dans la film de Jake Gyllenhaal, il y a beaucoup de films comme ça qui surprennent.
On a Source Code aussi, qui est sorti 10 ans plus tard.
Source Code, absolument.
Ouais, qui lui, il est classé science-fiction, par contre.
Là, on est clairement à science-fiction, on est un petit peu dans une histoire typique du jour sans fin, qui se répète indéfiniment, et on a un personnage qui doit revivre plusieurs fois de suite le même moment.
Pour éviter un attentat dans un train.
Voilà.
Puis on se rend compte au fil du film que ce n'est pas la réalité dans laquelle il est vraiment. C'est autre chose. Donc on est pareil, le thème des univers parallèles et de la réalité qui est principalement psychologique dans la tête et pas forcément physique se retrouve dans ce film-là.
C'est ça. Et on a toujours quand même ce personnage qui est un petit peu tourmenté, qui n'est pas le héros classique, parfait et sans aspérité.
Tu vas le retrouver dans chaque film de Jake Gyllenhaal, ça. Chaque personnage de Jake est ce personnage-là.
Alors, on n'a pas cité, bien sûr, dans un style peut-être un peu différent. Je crois que tu as une catégorie que tu as appelée plus ou moins beau gosse, où Jack...
Ça, c'est les inclassables. C'est là où Jack est moins torturé et un peu moins déprimé que d'habitude.
Un petit peu, et je joue un petit peu plus peut-être sur son physique. Alors, le cultissime secret de Brokeback Mountain, c'est dans cette catégorie-là.
Qui l'a propulsé en tant que star, parce qu'il avait déjà une carrière déjà bien fournie avant. Mais c'est celui qui l'a révélé en même temps que Heath Ledger.
Absolument.
Voilà, donc lui, il joue ce couple amoureux homosexuel.
Voilà, donc c'est vrai que c'était un film qui quand même prenait, disons, des risques en 2005.
C'était à ce moment-là, voilà, de jouer les homosexuels par des acteurs hétéros.
Oui, pour lui, c'était une prise de risque assez importante qui s'est soldée par un grand succès et je crois qu'une grande popularité.
Ce film n'est pas un film d'homosexuel, c'est simplement une histoire d'amour impossible.
Oui, oui.
C'est pas un western non plus, contrairement à ce que certains l'ont dit. Et donc c'est ça qui était assez intéressant à ce moment-là, c'est simplement de banaliser l'histoire, peu importe un peu le genre et le sexe que tu as, c'est plutôt les sentiments au-delà des catégories dans lesquelles on pourrait se trouver.
Alors, il a joué quelques films, disons, autour des sentiments. C'est vrai que Jake Gyllenhaal, c'est surtout des thrillers psychologiques, mais il y a aussi donc quelques films un petit peu plus sentimentaux, entre guillemets. On a cité donc Love et autres drogues. Il y a d'autres films ?
Bah là, on peut parler un peu rapidement de The Good Girl.
The Good Girl, c'est
oui,
un film
c'est
de 2002.
Oui, c'est avec Jennifer Aniston. Ouais. Donc là où elle joue une américaine trentenaire dans une vie qui ne la contente pas.
Ouais.
Et donc lui, bah, il était encore un peu ado à cette époque-là, hein. C'est ça, 21 ans. Et puis il arrive dans sa vie et puis il vient bouleverser ça. Ça reste quand même assez plat comme ambiance. C'est-à-dire que l'ennui qu'elle ressent, dirait le spectateur le ressent aussi. Et, et ça bouleverse un peu, mais pas tant que ça. Mais on est plus effectivement sur un registre, c'est moins psychologique. C'est plus un peu un portrait social,
voilà,
et alors, des mœurs de la banlieue américaine.
Dans ce genre un peu moins psychologique, moi j'ai vu également Everest, ouais, où Jake Gyllenhaal a un second rôle, hein, plutôt qu'un premier rôle, je dirais, sans en dévoiler véritablement l'histoire. C'est un film catastrophe avec tout ce que ça comporte, et mais le personnage incarné par Jake Gyllenhaal apporte beaucoup, je trouve, d'humanité et de légèreté à ce film qui, par ailleurs, relativement plat, un film qui est très beau par sa photographie et par les paysages qu'il a coupé le souffle de l'Everest, bien sûr, qu'il montre. Et puis, une histoire qui est haletante quand même. Mais le personnage incarné par Jake Gyllenhaal est véritablement certainement le plus dense et le plus intéressant du film. Et c'est souvent le cas. Et, cet acteur aime, j'ai l'impression, incarner des rôles très denses. On va peut-être finir par deux films pour lesquels il a véritablement il crève l'écran pour moi. Alors, 2014, Night Call, il incarne dans ce film assez dérangeant un psychopathe, et malgré tout, c'est ce que je disais hors antenne, on éprouve une certaine sympathie pour ce personnage, une empathie en tout cas. On a envie qu'il s'en sorte, on a envie qu'il réussisse. Je n'expliquerai pas dans le détail son parcours et le choix de vie qu'il fait, mais c'est véritablement très dérangeant, et c'est ce genre de film un petit peu à contre-courant où le héros est un anti-héros, est un méchant. C'est un film particulièrement intéressant et tout à fait où il est vraiment très bien choisi, très bien casté, je trouve. Peut-être que c'est son physique aussi un petit peu différent, un petit peu loin des critères d'Hollywood qui fait ça.
Et puis c'est je dirais le premier rôle où il a vraiment fait une modification de son physique en perdant énormément de poids pour
c'est
ce
vrai.
Rôle-là, pour avoir un visage beaucoup plus émacié,
oui,
qu'il n'a d'habitude.
Oui.
Et c'est la première fois qu'il a fait ça. Il a recommencé l'année d'après avec Southpaw, mais Michael est le premier film où vraiment il y a eu une métamorphose physique.
C'est vrai.
De Jake Gyllenhaal. C'est la première fois qu'il a fait ça.
Alors Southpaw, je l'ai vu aussi. On en a parlé ici sur Choc FM il y a un an. C'est un film de boxe relativement assez intéressant, mais relativement conventionnel finalement. Je voulais parler pour finir de Demolition, le dernier film en date de Jean-Marc Vallée, où il incarne donc un personnage en proie à des émotions un petit peu différentes, le deuil, et c'est une thématique véritablement intéressante pour un film qu'on ne voit pas très souvent au cinéma. Encore une fois, c'est un personnage extrêmement complexe qui, disons, a une réaction épidermique face au deuil de sa femme qui meurt subitement, alors qu'elle attendait en plus un enfant, et la transition et, disons, le déroulement psychologique qu'il a à trouver est véritablement très très bien montré dans ce film. avec beaucoup de surprises et encore une fois de twists entre guillemets, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et je pense que c'est vraiment une constante dans la filmographie de cet acteur remarquable qu'on va continuer à suivre.
Oui, il y a une évolution logique dans sa carrière quand même. On remarque qu'il est passé de rôle où il jouait plus sur son physique quand il avait la vingtaine, et puis passé la trentaine, là, qui est arrivé avec Love et autres drogues, et là, c'est là qu'il est entré vers des personnages beaucoup plus denses et plus profonds.
C'est ça.
Et a commencé aussi à s'emmochir pour certains rôles.
Oui.
Ouais. Donc là, et puis il joue au théâtre aussi hein, depuis quelques années.
Il joue au théâtre, alors ça, oui. Je ne savais pas. C'est vrai que c'est donc pas un acteur qu'on voit dans des rôles extrêmement physiques. C'est pas un Tom Cruise ou un Bruce Willis, bien sûr.
Il y a Prince of Persia de 2010, mais c'est le seul film où il joue sur les muscles.
Voilà, voilà. C'est pas vraiment un acteur de blockbuster. C'est plutôt un acteur de film un petit peu plus d'auteur, je dirais. Voilà. Comme on les aime. Mariette, merci beaucoup.
Pas de problème, puis on lui souhaite un bon anniversaire, parce qu'il a 36 ans le 19 décembre.
Eh bien, bon
si
anniversaire,
tu as bien
Jack. Si tu viens à Toronto, viens nous voir à Choc FM.